Donc, je vais vous présenter un exposé sur l'encadrement de la presse enfantine et de la presse pour la jeunesse par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse de 1900. C'est bon, encore un petit peu. Ah, de... voilà, j'essaie de régler. De 1950 à nos jours. Pardon. Alors, loi 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Telle est la mention mystérieuse que l'enfant découvre au dos de son journal ou de son livre. La formule est obligatoire. Elle atteste le contrôle d'une commission instituée par la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et installée au ministère de la Justice en 1950. Pourquoi cette loi ? Après la Seconde Guerre mondiale, la volonté de reconstruire une nation saine et forte fait consensus. La protection d'une jeunesse éprouvée par le conflit constitue un des volets de ce désir de renouveau. Ainsi, l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante institue notamment le juge pour enfants et la direction de l'éducation surveillée séparée de l'administration pénitentiaire. L'une des racines de cette délinquance juvénile croissante, les mauvais journaux, entre guillemets, est ensuite traitée. L'influence néfaste, toujours entre guillemets, des illustrés gangsters et des magazines étalant le crime était en effet dénoncée depuis de nombreuses années par des éducateurs de tous bords. À noter que ce qui pose surtout problème, ce n'est pas le texte, mais c'est l'image. Illustrée, c'était des bandes dessinées, enfin des journaux composés surtout de bandes dessinées, donc composés surtout d'images. Après bien des débats au sein de la presse, du monde politique et éducatif, la loi 49-956 sur les publications destinées à la jeunesse est adoptée donc le 16 juillet 1949. L'article 3 de cette loi installe une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au ministère de la Justice. Cette commission est une spécificité française. Elle est chargée du contrôle des publications destinées à la jeunesse, régie par l'article 2 pour les Françaises, par l'article 13 de la loi pour les étrangères. Ces publications ne doivent, selon l'article 2 de la loi de 1949, complétée en 1954, je vais vous lire l'article qui est un peu long, comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crime ou délit ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Voilà, on voit que les critères sont un peu, peuvent paraître un peu vieillots actuellement. Donc cet article de loi a été modifié en 2011 comme suit. Les publications mentionnées à l'article 1er, donc les publications destinées à la jeunesse, ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crime ou de délit ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mentale ou morale de l'enfance ou de la jeunesse. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Fin de citation. Les publications françaises destinées à la jeunesse sont contrôlées a posteriori. Donc, selon la définition de la censure, ce n'est pas la censure, mais du contrôle. Donc, après leur parution et leur diffusion. En revanche, selon l'article 13 de la loi, l'article 13 s'impose aux publications étrangères. L'importation des publications étrangères destinées à la jeunesse est soumise à l'autorisation du ministre de l'Information, prise sur avis favorable de la commission de surveillance. La commission est également chargée de signaler au ministre de la Justice, je cite, « les infractions à la loi de 1949, ainsi que tous agissements de nature à nuire par la voie de la presse à l'enfance et à l'adolescence ». La troisième mission de la Commission dans le domaine des publications destinées à la jeunesse est beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus positive. La Commission doit en effet proposer, je cite, « toute mesure susceptible d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ». Malgré leur intitulé, la loi sur les publications destinées à la jeunesse et la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ne s'inscrivent pas seulement dans le champ de la presse pour les jeunes. L'article 14 de cette même loi, de 49, confie en effet à la commission une mission supplémentaire, le contrôle des publications pour adultes qui seraient susceptibles d'être lues par les jeunes. Je n'en parlerai pas dans cet exposé, mais c'est cet article qui est le plus célèbre. J'en parlerai pas dans cet exposé parce que ça ne fait pas partie donc, des publications destinées à la jeunesse. La composition de cette fameuse commission est prévue par l'article 3 de la même loi. Le décret portant règlement d'administration publique du 1er février 1950 et l'arrêté du 4 février 1950 en fixent les modalités d'organisation. Composée d'acteurs d'origine et de conception politique et religieuse différentes, et parfois même opposées, elle tente de mener à bien la moralisation de la presse enfantine. Elle est en effet le reflet des groupes très divers issus de la bataille menée pour faire voter cette loi. Elle est composée de représentants de l'État, en particulier des magistrats, de parlementaires, d'enseignants, de professionnels de la presse et de l'édition, de jeunesse seulement au départ, puis à partir de 1967, pour adultes également, dont le célèbre Jérôme Lindon, par exemple, qui a fait partie de cette commission. Au titre de... Enfin, il était le directeur des éditions de l'UNI. Elle est également composée de militants de mouvements de jeunesse et d'associations familiales. Ça, c'est la composition de départ, la composition de 1950. En 2011, cette commission a été réduite à 15 membres titulaires, contre 29 auparavant. Les conséquences de ce contrôle. La commission de surveillance et de contrôle ne possède aucun pouvoir répressif. Elle a seulement un rôle d'information que lui confère l'avant-dernière alinéa de l'article 3 de la loi de 1949, qui stipule, je cite, qu'elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi. Seul le garde des Sceaux peut donc engager des poursuites pénales contre un éditeur qui aurait, selon la commission, enfreint l'article 2. Un seul éditeur, d'ailleurs, pour la jeunesse, a été condamné au titre de l'article 2 de la loi. Je précise bien pour la jeunesse, parce que pour adultes, avec l'article 14, j'en ai eu de nombreux, on va dire. Le garde des Sceaux a en effet accédé aux demandes de la commission en 1954 et lancé des poursuites à l'encontre de Pierre Mouchot, coupable aux yeux des commissaires de magnifier la violence à travers les aventures d'un justicier masqué qui s'appelait Big Bill le casseur. Ces poursuites se sont conclues en 1961 par une condamnation de Mouchot après un marathon judiciaire de 7 années, révélateur d'un véritable acharnement. Mais en fait, suivant les conseils que lui avait donné le ministre de la Justice, René Mayer, lors de son allocution inaugurale en 1950, cette commission a délaissé la répression au profit de la persuasion. Alors, quelles étaient la teneur de ces recommandations aux éditeurs ? La commission les commissaires étaient d'abord très choqués par la violence et les atteintes à la dignité humaine. Ils ont mené une croisade contre les petits formats et les récits complets. Petit format, je vous en montre des exemples, petit format des années 50. Voilà, présenté comme ça. Vous avez des petits illustrés composés de bandes dessinées en noir et blanc. Alors, dans les années 50, dans le domaine de l'article 2, voilà, les publications critiquées par les commissaires le sont principalement donc pour leur violence. Une sous-commission destinée à étudier l'influence de la représentation de la violence sur l'esprit du jeune lecteur est même mise en place en 1957. Donc je reprécise de nouveau, le problème qui s'est surtout posé, c'est l'image, la représentation, donc l'image. Donc vous avez ici un exemple de bande dessinée, de série dessinée qui pouvait être susceptible de ne pas plaire au commissaire. Donc cet exemple est issu du Casseur, une édition de Pierre Mouchot, c'est le seul éditeur qui a été donc condamné en 1961 au titre de l'article 2. Donc voilà, la violence, le personnage justicier masqué, etc., c'était autant de choses qui ne plaisaient pas au commissaire. Ensuite, donc ça c'est un volet des recommandations des commissaires aux éditeurs, c'était de bannir la violence de leurs journaux. Ensuite, à partir du début des années 60, les commissaires sont exaspérés par le succès auprès des adolescents des magazines qui fleurissent dans le sillage de « Salut les copains » et de la presse du cœur. Alors la presse pour... Donc là, on passe vraiment à autre chose, mais La presse pour adolescents compte en effet de nombreux magazines qui se multiplient au moment où les enfants du baby-boom entrent dans l'adolescence. Les membres de la commission assistent avec désarroi à l'explosion de la presse du cœur et de la presse pour adolescents, symbolisée par le succès foudroyant de Salut les copains et un niveau plus modeste de ses divers clones. Sans délaisser pour autant les petits formats, jugés violents, ils portent leur attention sur les nouvelles revues, préoccupées essentiellement, selon eux, par les vedettes de la chanson, donc le culte de la vedette, ou par les histoires à l'eau de rose quasi érotiques. Une sous-commission presse du cœur est alors mise en place. Jean Bourrelli, secrétaire de la commission dans les années 70, déclare aujourd'hui avoir voulu réorienter le travail de la commission dès son arrivée en 1971. Il voulait en effet attaquer les publications réellement dangereuses, selon lui, pour la moralité juvénile. Il souhaitait ainsi mener, je cite, « une lutte anti-crétinisme contre les revues pour adolescents, et notamment « Salut les copains » et « Mademoiselle Achetendre ». Oui, ça me paraît un peu décalé aujourd'hui. Donc les commissaires sont très réticents vis-à-vis de ces publications, d'autant plus qu'elles rencontrent un grand succès. Ensuite, un troisième volet de ce que reprochent reproches des commissaires aux publications destinées à la jeunesse, c'est donc ils s'élèvent contre l'image du surhomme, du super-héros et la fausse anticipation. Donc, dès les débuts de leurs travaux, dans les années 50, les commissaires n'apprécient pas Tarzan, à qui ils reprochent d'être un, je cite, Hercule microcéphale. Ça fait très athée, les expressions. Il redoute en effet que la prolifération de ce genre de personnages ramène l'idéal des jeunes lecteurs, je cite, à l'apothéose de la force physique et de l'animalité. Se pose en effet le problème de l'exemple qu'on pourrait donner, la mauvaise influence des journaux aux enfants. Et c'est, par exemple, aujourd'hui, on pourrait faire le parallèle avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo violents pourraient influencer d'une mauvaise façon les enfants. En 1968 et 1969, après un répit de quelques années, plusieurs mises en demeure s'abattent sur trois journaux qui ont le tort de faire l'apologie de surhommes au pouvoir démesuré. Tour à tour, le récit « L'œil de Zoltek », publié dans Bugs Bunny par la Sage Édition, puis « Mandrake et le fantôme des éditions des Remparts » et « Fantasque », publié par Lug, font l'objet des foudres de la commission. Les éditeurs réagissent très vite à cette menace de poursuite judiciaire. Les récits et journaux litigieux sont améliorés ou tout simplement supprimés. Ensuite, un autre volet donc du travail de la commission, c'est l'examen des illustrés étrangers, des publications étrangères, régies donc par l'article 13. Donc ces publications étrangères, théoriquement, doivent être toutes déposées au ministère de la Justice avant diffusion en France, je le dis bien théoriquement, parce que ce n'est pas le cas. Dans le cadre de l'article 13, la commission est chargée de voir si elles sont compatibles, conformes à l'article 2. Donc l'examen des illustrés étrangers qui étaient jusqu'aux années 90, on va dire, dans le cadre de l'article 13, ne crée jamais de situation aussi tendue. Les grands éditeurs belges, Dupuis, Le Lombard et Casterman, diffusent des productions empreintes de morale chrétienne et de soucis éducatifs, mise en valeur par un nouveau style graphique, la ligne claire, qui comble à la fois les jeunes lecteurs et les commissaires. Le journal de Tintin, des éditions du Lombard, échappe même à l'application de l'article 13, car il est coédité en France par Dargaud. Le journal de Spirou, des éditions Dupuis, n'est que rarement réprimandé, et le plus souvent avec sympathie. En revanche, quelques albums qui reprennent des histoires déjà parues dans le journal de Tintin ou le journal de Spirou sont rejetés. L'accumulation de scènes de violence, donc d'images de scènes de violence, dans un même ouvrage, provoque une réaction des commissaires. Jugées tolérables lors de la publication par épisode dans les hebdomadaires, elles sont réprouvées lors de leur réunion dans un album. Ainsi, le piège diabolique d'Edgard Jacobs a essuyé un refus d'importation en 1962 en raison, je cite, « des nombreuses violences qu'il comporte et de la laideur de ses images ». Il est finalement publié en France en 1967, car édité par Dargaud, éditeur français. Donc c'était un moyen de contourner la censure. Donc il était du coup soumis non plus à l'article 13, mais à l'article 2. Les commissaires ne pouvaient plus donc refuser l'importation, puisqu'il était déjà publié par un éditeur français. Il faut noter que la Belgique ne disposait pas d'une telle commission de surveillance des publications. C'est pourquoi en Belgique on trouvait ces albums, alors qu'en France on pouvait avoir plus de mal à les trouver, parce que... pouvait être soumis à un refus d'importation. Donc ça, c'est ce qui... Le pillage d'abolition donc, a été donc refusé en 1962. Quant à l'album numéro 2 de Boulet Bill, par Robard, son entrée en France est refusée en 1963, car les commissaires lui reprochent les expressions ou images d'un goût contestable qu'on peut relever au fil des pages. Boulet Bill. Mais la vignette où Bill s'envole avec ses oreilles leur aurait notamment déplu. Ça, c'est des conjectures, mais Jean Robat, l'auteur de la bande dessinée, précise en effet, je cite, « On m'a accusé de le torturer, redouter l'expérience néfaste, toujours la mauvaise influence sur les enfants, l'expérience néfaste sur les enfants, qui auraient pu essayer de faire pareil avec leur chien. » Alors, ces motifs invoqués cachaient peut-être des vérités protectionnistes au vu de la médiocrité des productions françaises de l'époque, en imposant une limitation à l'importation trop massive de matériel étranger. Mais ces refus ne représentent qu'un très faible pourcentage de la production des éditeurs belges. Très vite, en effet, ces éditeurs se sont adaptés aux exigences de la commission ou ont détourné son contrôle en important leur publication avant qu'elle ne lui soit soumise. Donc ils se sont adaptés aux exigences des commissaires en soumettant leurs auteurs à l'autocensure. Ces éditeurs belges sont loin d'être les seuls à se soumettre à l'autocensure. En effet, les commissaires cherchent à amener l'ensemble des éditeurs à l'autocensure par la définition de règles de fonctionnement et d'un arsenal à vocation avant tout dissuasive. Les avis de la commission après examen des publications sont communiqués aux éditeurs par un courrier du secrétariat, avis de plus en plus menaçant selon le degré estimé de nocivité. Recommandation. Avertissement 5, avertissement avec mise en demeure de retirer de la vente des exemplaires encore en cours de diffusion. La commission accepte de sursoir provisoirement à toute demande de poursuite si l'éditeur s'engage à procéder à toutes les améliorations exigées. Les éditeurs mis en cause ont la possibilité de demander une audience au secrétariat afin de recevoir tous les conseils nécessaires aux transformations de leur publication quand la commission n'a pas pris d'elle-même la décision de les convoquer. Certains éditeurs, plus ou moins encouragés par certains conseils de la commission, ont pratiqué donc l'autocensure à des degrés différents. Les plans étrangers, les histoires en bande de dessinateurs français étaient alors passés au crible afin d'y effacer une bonne partie des éléments susceptibles de blesser les commissaires. Cette autocensure subjective conduisait donc l'éditeur à pratiquer lui-même un contrôle préalable à l'apparition de ses titres, sans toutefois, évidemment, préjugé de la réception finale de ceux-ci par les commissaires. Cette crainte les conduisait parfois à supprimer des illustrés, comme par exemple Fantasque. Les éditeurs faisaient donc retoucher les scènes de violence en demandant la disparition de traits symbolisant un mouvement ou des onomatopées. Bon, alors, par exemple, là, c'est un peu extrême, un cas un peu extrême, avec la couverture de Plutos, donc de l'éditeur Lug, qui... donc est paru en juin 58. Alors on voit que l'image d'origine, a priori, il tenait le personnage tenait un revolver, et donc on a effacé le revolver et le personnage pointe son doigt, c'est un peu ridicule. Et on voit que 15 ans plus tard, le même éditeur publie de nouveau cette image, mais cette fois il y a eu un glissement des mœurs, une libéralisation des mœurs. En tout cas, le revolver réapparaît. Donc cette autocensure concerne surtout les scènes de violence, mais aussi on leur demande, selon l'expression d'un dessinateur, de, je cite, « raboter la poitrine des héroïnes », par exemple. Donc les commissaires étaient conscients de cette autocensure qui les encourageait par leurs recommandations. Cette autocensure existe encore aujourd'hui. Ainsi, Jacqueline de Guyenschmidt, qui était présidente de la commission de surveillance, cette commission existe encore, hein, je précise, en 1998, Jacqueline de Guyenschmidt, présidente de cette commission, reconnaît que la commission passe, je cite, « moins de temps à examiner les publications pour la jeunesse parce que la plupart d'entre elles ne posent pas de problème. Les éditeurs sont en général suffisamment responsables pour ne pas proposer de titres litigieux dans des collections destinées à l'enfance ou à l'adolescence. » Fin citation. Enfin, avec l'apparition de la bande dessinée adulte, donc, je rappelle que le problème, c'était surtout le problème de l'image, le problème de la bande dessinée. L'apparition de la bande dessinée adulte et son développement dans les années 70, la bande dessinée n'étant plus essentiellement destinée à la jeunesse, est petit à petit de moins en moins soumise donc à l'article 2. Le contrôle de la Commission s'est peu à peu quasiment entièrement tourné vers les publications régies par l'article 14, donc, c'est-à-dire les publications pour adultes. Voilà. Néanmoins, depuis quelques années, la Commission se montre inquiète de l'émergence du roman pour adolescents. Celui-ci, reflétant l'évolution des mœurs, aborde la sexualité, la violence et la drogue. Ça, c'est dans les années plutôt 2000. Les membres de la commission de surveillance se trouvent confrontés à ce type d'ouvrage et tentent d'instaurer une classification des livres par âge. Ainsi, dans son courrier du 27 novembre 2007, donc il y a 5 ans, la commission suggère à Thierry Magnier, responsable des éditions Actes Sud Junior, je cite, « la position d'une mention en quatrième de couverture portant sur l'âge minimal conseillé ». Il propose 15 ans comme limite basse. Les titres incriminés sont tous deux publiés dans la collection d'une seule voix et illustrent parfaitement le débat général quant au contenu du roman contemporain pour adolescents. Donc les deux titres sont « Quand les trains passent » de Malin Lindroth, qui est traduit du suédois. Il montre comment une manipulation amoureuse entre lycéens mène à une scène de tournante. Et le second, « Kaina Marseille » de Catherine Zambon, vous voyez que c'est un titre assez court, et le récit d'une adolescente africaine qui, croyant partir vers une vie meilleure, se retrouve victime d'une filière de la traite des femmes. Bernard Joubert, qui travaille encore beaucoup sur la censure, rapporte également une remarque des commissaires à l'égard du livre « Issa, enfant des sables » de Pierre-Marie Baude, publié par Gallimard Jeunesse. Là, aucun problème de tournante ou viol, etc. En fait, ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme engagée dans une ONG au Sahara qui se retrouve confrontée à la mort d'un enfant, d'un bébé. Les commissaires ont demandé à ce que l'âge conseillé sur la couverture du livre soit ramené de 11 à 13 ans, le problème étant la mort de l'enfant. La commission a essuyé un refus de la part de l'éditeur, donc de la part de Gallimard, qui a argué notamment du fait que ce livre, « Issa, enfant des sables », est recommandé par le ministère de l'Éducation nationale pour le niveau 5e, donc 12 ans, voilà. Alors que la commission demandait à partir de 13 ans. Enfin, le problème surtout de la commission, depuis une dizaine d'années, se pose le problème donc, du contrôle de la télévision, parce que là, elle est chargée seulement des publications destinées à la jeunesse, c'est-à-dire que publications soit libres, soit revues, magazines. Donc le problème du contrôle de la télévision, qui est surveillé en France par le CSA, et surtout des nouvelles technologies de l'information, Internet, téléphone portable et jeux vidéo. Dans plusieurs rapports, et notamment dans son dernier rapport, qui a été rédigé en 2006, il est fait état de l'inadaptation de la loi de 1949 et de ses modalités d'application à la situation actuelle des médias. La commission apparaît donc comme pléthorique, ce que je disais en début d'exposé, 29 membres titulaires, ne se réunissant pas assez souvent par rapport à la multiplication des publications destinées à la jeunesse, et surtout on voit apparaître le décalage entre les préoccupations de protection de la jeunesse de 1949, notamment l'accumulation des critères que je vous ai cités tout à l'heure, et les nouvelles technologies. Plusieurs rapports demandent donc à ce qu'une rénovation de la commission et une adaptation de la loi de 1949. En 2011, cette loi est toilettée, la composition de la commission est réduite donc de 29 membres à 14 membres, l'article 2 est réécrit comme je vous l'ai cité au début, et il s'impose désormais aussi au support associé aux revues pour la jeunesse. Par exemple, si une revue, un magazine est vendu avec un DVD, donc le DVD qui est accolé au magazine va être soumis au même article 2 contre les substances psychotropes, la pornographie, etc. Et aussi les publications publiées dans l'Union Européenne ne sont plus soumises à l'article 13, donc ne sont plus soumises à un refus éventuel d'importation. Mais le problème du contrôle des nouveaux médias n'est toujours pas soulevé, n'est toujours pas réglé. Donc aujourd'hui, certaines personnes sont toujours partisans d'une protection d'ensemble de la jeunesse, souhaiteraient que la loi de 1949 soit étendue à tous les médias, tandis que d'autres, partisans de la liberté d'expression, réclament l'abrogation d'une loi jugée obsolète. Voilà, je vous remercie.